Religion du monde. Geneviève Delru.
Je comprends que tu as envie de t'écarter ou de t'éloigner un peu. Il a utilisé le terme espagnol d'essencia. Donc, il m'a dit, mais je n'ai pas à moi de prendre cette décision, c'est à toi. Rome n'a pas à intervenir dans ce genre de choses, dans la conduite, pour un choix provisoire à l'intérieur d'un diocèse. C'est comme ça que j'ai fait ce choix.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, à la surprise générale, donc ne démissionne pas, mais choisit de se mettre en retrait de son diocèse. Coup de théâtre, en effet, lundi dernier au Vatican, venu remettre sa démission au pape, le cardinal Barbarin se la voit refuser au nom de la présomption d'innocence. Le cardinal Barbarin, condamné le 7 mars dernier à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle du père Prénat, un prêtre de son diocèse, a en effet fait appel, arguant notamment que les faits remontent aux années 70-80 avant son arrivée dans le diocèse. La décision du pape François a surpris tout le monde, dans et en dehors de l'église, et elle passe très mal auprès des victimes du père Prénat, regroupées au sein de l'association La Parole Libérée. Le cardinal Barbarin a accordé mardi dernier à la chaîne de télévision catholique KTO une interview exclusive. Au micro d'Étienne Loralière, il explique pourquoi il était venu présenter sa démission au pape.
La raison pour laquelle je lui avais proposé, quel que soit le jugement du tribunal, c'est que je trouve que mon diocèse souffre beaucoup depuis longtemps. J'étais très marqué par la phrase de l'une des victimes lors du procès qui a dit « Oui, vous souffrez depuis 3-4 ans, mais est-ce que vous vous rendez compte que nous souffrons depuis 30 et 40 ans ?» Ce qui est terrible comme phrase. Et donc en pensant à eux et en pensant aussi à tout notre diocèse, je pense qu'il est temps qu'une page se tourne, qu'un nouvel élan arrive et qu'on reparte d'un pied nouveau pour une étape nouvelle. Après, ce qui est une grande épreuve pour tout le monde, pas que pour moi. Enfin, d'abord pour eux, d'ailleurs.
Concrètement, cette décision, pourquoi, comment vous l'avez prise ?
Dans la conversation avec le pape, puisque quand j'ai vu qu'il ne voulait pas me démettre de mes fonctions, ce qu'il a le pouvoir de faire, alors en plus, comme je remettais ma charge entre ses mains, il m'a dit, mais c'est pas à moi de prendre une décision, c'est pas à Rome d'intervenir toujours et partout, dans ton diocèse, c'est toi qui es le pasteur, et si tu sens qu'il y a quelque chose de bon pour apporter un peu de paix à l'intérieur de ce diocèse, c'est comme ça que j'ai fait ce choix. Donc c'est le choix d'une certaine distance, d'un certain retrait, d'un certain écart par rapport à la vie très tumultueuse, très très belle, très mouvementée de ce diocèse, pour que un autre esprit se présente et se développe.
Monseigneur, qu'est-ce que vous espérez du coup pour votre diocèse durant ce moment ?
Eh bien, un peu de paix. Je ne sais pas si la paix manque, mais je sais que la souffrance est grande, et donc je crois qu'ils ont besoin, de repartir d'un pas nouveau ou d'un élan nouveau, parce que l'image qui a été forgée au cours de ces dernières années est une image terrible et très lourde à porter, pas seulement pour moi, mais pour tout notre diocèse. Et je veux qu'ils repartent dans une forme de liberté. J'espère que le Seigneur la lui donnera.
Et vous pensez que pour faire vivre cette étape, vous devez vous mettre un peu à l'écart ?
Voilà, exactement. C'est ça que je crois le plus utile.
Vous avez souhaité, vous l'avez évoqué, cette procédure d'appel, faire appel du jugement en première instance. Pour quelle raison ?
Parce que c'est un droit que la France m'offre, quoi. Donc j'ai demandé conseil à des procureurs, à des juges, enfin des différents magistrats, et aussi aux avocats, et tous m'ont dit, non, c'est une évidence. Alors quelques-uns non, parce qu'ils disaient, c'est un jugement, c'est une condamnation, ce serait un bel exemple si vous l'acceptiez. Je respecte aussi ces arguments, évidemment, mais c'est vraiment un droit que le droit français me propose ou nous donne, donc je l'ai fait sans hésitation.
Parce que vous l'avez déjà dit, vous considérez innocent.
Plusieurs fois j'ai dit ça, je ne vous dis pas que j'ai bien fait. Je vous dis ce que j'ai fait, comment je l'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Voilà. Après, nous sommes sous un jugement qui est en référence à une loi de la République française, que je connais très peu, mais que même les spécialistes perçoivent difficilement. Et donc il y a un jugement qui vient, qui n'est pas le même que le premier du procureur. C'est donc normal d'ailleurs aussi qu'on fasse appel quand il y a un tel écart entre ce qu'a dit le procureur et ce qu'a dit le tribunal, ce qui est normal.
Le cardinal Barbarin sur la chaîne de télévision KTO lundi dernier. Alors, pourquoi le pape François, qui se veut très volontariste sur ce dossier crucial des abus sexuels pour l'avenir de l'Église, qui a convoqué au Vatican en février un sommet sur la protection des mineurs, pourquoi a-t-il pris cette décision? Avec nous en ligne, le vaticaniste et journaliste au Figaro, Jean-Marie Guénois. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour.
En prenant cette décision de ne pas accepter la démission du cardinal Barbarin et d'attendre le jugement du procès en appel, est-ce que François n'a pas pris le risque de semer la confusion, d'être totalement incompris, de passer pour un pape qui couvre le cardinal?
Pas du tout, c'est le même volontarisme que vous évoquez à l'instant, qui n'est pas cette fois dirigé dans le même sens. C'est-à-dire que, bien sûr, le pape veut la tolérance zéro, bien sûr, il veut mettre la priorité sur les victimes, ça a été dit, redit et confirmé au sommet de février, mais avec la même volonté, il veut que la justice soit faite, mais totalement accomplie, pour les prêtres ou évêques qui seraient impliqués dans ces domaines. Et cette décision du pape, elle est vraiment dictée par le souci, et là on retrouve le jésuite, la tradition jésuite, le souci que la justice aille jusqu'au bout, la justice civile, sur la définition de la responsabilité et de la culpabilité éventuelle du cardinal Barbarin, puisqu'il est présumé toujours innocent selon le droit. Donc ça c'est une rigueur presque, je dirais, forcené du pape François pour tenir à la fois les deux, bien sûr, défendre les victimes, mais en même temps, ne pas jeter tous les évêques, en tout cas les prêtres pédophiles, évidemment, les éloignés du sacerdoce, mais des évêques qui auraient pas été informés ou mal informés, et là je ne défends pas les évêques, c'est une question de droit extrêmement précis, de responsabilité très précise. Le pape veut une clarté absolue de la justice avant de se définir. Et c'est en ce sens qu'il a pris cette décision. Non pas pour protéger Barbarin, non pas pour aider un ami, parce que c'est son ami, mais c'est à travers le cardinal Barbarin, plus, je dirais, les trois quarts des évêques du monde qui sont en cause. Parce que, pour résumer d'un mot, la situation du cardinal Barbarin, c'est celle d'un évêque qui débarque dans un diocèse et qui doit gérer des cas anciens de prêtres pédophiles que ses prédécesseurs n'ont pas traités et qui sont ces cas un peu endormis dans le silence, etc. Et il y a beaucoup de cas similaires, beaucoup d'affaires Barbarin dans l'Église catholique et dans le monde, et c'est en prévision de cette situation que le pape veut que la justice vraiment attende que la justice soit faite avant de se prononcer.
Jean-Marie Guénois, journaliste au Figaro.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Une semaine après le massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande, la Grande Mosquée de Paris devait organiser ce vendredi une grande cérémonie de recueillement à la mémoire des 50 victimes du double attentat perpétré dans deux mosquées de la ville par un suprémaciste australien de 28 ans se réclamant de thèse islamophobe. De son côté, le pape François a demandé dimanche dernier aux fidèles de la place Saint-Pierre de prier, je cite, pour nos frères musulmans auprès desquels il a exprimé sa proximité. Le pape François, qui est attendu au Maroc, à Rabat, samedi prochain pour une visite de deux jours, 34 ans après le voyage historique du pape Jean-Paul II. Et nous avons demandé à Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France, proche du Maroc, s'il pensait que le pape allait s'exprimer sur l'attentat terroriste de Nouvelle-Zélande.
Le pape François s'est déjà exprimé, bien sûr, suite à cette tragédie qui nous a profondément dévastés. Ça serait l'occasion effectivement de rappeler que le terrorisme est un fléau qui touche le monde aujourd'hui et que toutes les forces vives de l'humanité doivent s'unir et unir leurs forces pour l'affronter, pour comprendre ses motivations et de s'y opposer avec toutes les forces que nous avons. Et lorsque nous avons eu cet attentat, j'ai eu l'occasion de... Le grand rabbin Haïm Korshia m'avait appelé pour présenter ses condoléances à la communauté musulmane. J'étais profondément touché par ce geste du grand rabbin. Et nous avons eu l'idée d'aller voir madame l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande et nous lui avons présenté nos condoléances avec le recteur Boubaker. Et je pense qu'elle était très émue d'abord de cette visite la nôtre, mais on a senti une femme vraiment dévastée par ce qui s'est passé dans son pays, un pays d'accueil qui vient de vivre des moments auxquels ils n'ont jamais songé. Et il nous a exprimé les paroles du Premier ministre, des paroles très fortes pour dire que rien ne changerait au niveau de la Nouvelle-Zélande malgré cet acte meurtrier qui a profondément dévasté les Nouveaux-Zélandais.
Et vous, au niveau donc de l'UMF, l'Union des Mosquées de France, vous avez tenu, comme d'ailleurs d'autres organismes, associations musulmanes, à vous exprimer sur le sujet.
Oui, bien sûr, nous avons condamné tout de suite ce massacre. Et au-delà de la condamnation, bien sûr, nécessaire et utile, exprimer la compassion vis-à-vis des familles des victimes et le peuple néo-zélandais, j'ai tenu à publier dès aujourd'hui une tribune intitulée « Le terrorisme n'a ni nationalité ni religion » pour rappeler que tous ces actes terroristes commis au nom d'une religion ne peuvent se prévaloir de cette religion ou de cette nationalité. J'ai rappelé que dans toute l'histoire, les extrémistes, ils ont toujours essayé, par ce moyen, de créer la division et la tension au sein de nos sociétés, parce que uniquement au sein d'une société tendue, divisée, qu'ils peuvent prospérer.
Mais là, ça n'était pas au nom de la religion, là, c'était au nom de la civilisation, là.
Oui, tout à fait, mais il faisait comme référence à la dimension chrétienne de l'Europe, à la théorie de grand remplacement, et là j'attire l'attention de ceux qui débattent sur des choses qu'il faut une précaution de langage. Il faut accepter tous les débats, refuser toutes les violences, mais il faut aussi savoir que certains débats, s'ils ne sont pas tenus dans des mots bien choisis, bien mesurés, ils peuvent faire naître la violence aussi.
Mohamed Moussaoui, président de l'UMF, l'Union des Mosquées de France. Le dialogue entre le christianisme et l'islam, la place des minorités religieuses seront au cœur de cette visite de 2 jours du pape François au Maroc, qui se déroulera essentiellement à Rabat. On peut s'attendre également à ce que la question de la violence au nom de la religion soit dénoncée par le pape dans plusieurs des discours qu'il doit prononcer. Ahmed Abadi est le secrétaire général de la Rabita Mohamedia des Oulémas du Maroc. Spécialiste de l'histoire comparée des religions et de la pensée islamique, a élaboré une méthode de déconstruction du discours extrémiste. Et nous lui avons demandé comment il voyait cette visite du pape François au Maroc.
C'est un vrai point d'inflexion parce que ça vient raviver la visite qu'avait opérée sa sainteté le pape Jean-Paul II au royaume en 1985. Ça ravive aussi le partenariat qu'a eu le Royaume du Maroc avec le Saint-Siège en matière de dialogue interreligieux qui avait été signé par feu Monseigneur Jean-Louis Torrent. Et ça ravive toutes les pratiques, la présence franciscaine au Royaume du Maroc depuis plus de 800 ans et les autres présences par le biais des églises et des cathédrales, parmi lesquelles plusieurs sont toujours opérationnelles. Donc c'est une visite qui vient aussi dans un moment où il y a eu une montée des extrémismes, des fanatismes, et de ces éloignements les uns des autres, ce qui n'est pas du tout judicieux dans une petite planète telle que la nôtre. Cette visite-là vient nous aider à recogiter toutes ces dimensions-là et à donner une nouvelle visée à ces relations interculturelles. Et on espère que les symbolismes et de sa sainteté le pape François et de sa majesté commandeur des croyants Mohamed VI pourra faciliter cette virée vers le virtueux plutôt que ce dont on témoigne aujourd'hui à titre d'exemple de ce qui s'est passé à la Nouvelle-Zélande dernièrement ou ce qui s'est passé dans des églises ou dans des synagogues au nom du sacré.
Ahmed Abadi, secrétaire général de la Rabita Mohamedia des Oulémas du Maroc. Dans le monde musulman, par son ouverture aux autres religions, le Maroc a une véritable singularité en matière religieuse. Sur ce paysage religieux marocain, on écoute l'islamologue Abderrahim Afidi, producteur de l'émission Islam sur France 2.
Le paysage religieux au Maroc est un paysage d'abord hérité d'une histoire, avec des fondamentaux, avec une foi, avec une théologie, avec une vision du monde, inscrite dans le corps même de la Constitution. Mais la Constitution ne parle pas que de l'islam. La Constitution parle de toutes les composantes, y compris hébraïques, de l'identité marocaine, linguistique. C'est ce Maroc nouveau, qui accueille le pape François. Et vous allez voir, et nous allons voir, l'enthousiasme avec lequel les Marocains accueillent ce grand homme, car il y a un véritable courant de sympathie pour cet homme qui n'a pas hésité parfois à braver un certain nombre de politiquement corrects pour dire ses choix, ses visions, ses conceptions, sans se préoccuper des commentaires. Et finalement, tous ces commentaires, tous ces avis qu'il a donnés se sont révélés, frappés au bon coin du bon sens.
Ce voyage du pape François, donc, en terre marocaine, est l'occasion de revenir sur une déclaration qui est passée inaperçue. On sait dire, il faudrait d'ailleurs étudier l'origine de cela, la fameuse déclaration de Marrakech. Donnez-nous quelques rappels sur cette déclaration très importante.
Alors, cette déclaration était le résultat de 3 jours d'une convention internationale qui a eu lieu le 25, 26, 27 janvier 2016 à Marrakech, sous l'égide et sur le haut patronage du roi du Maroc, et avec évidemment l'organisation matérielle et intellectuelle du ministère des Affaires islamiques des Habous, entouré d'un certain nombre de théologiens, d'intellectuels du monde entier, 350 personnalités du monde entier, théologiennes, intellectuelles, journalistes. Il y a également le secrétaire général de l'ONU a dépêché un de ses représentants. Et pendant 3 jours, nous avions assisté à un véritable débat de fond sur d'abord l'état des lieux du monde, où en sont les religions, et que peut aujourd'hui la religion musulmane, les porteurs de cette religion musulmane, les États qui se réclament de cette religion, que peuvent-ils pour rendre le monde plus supportable? Et la première chose qui s'est dégagée, parce que c'était l'objectif, c'est comment assurer à ceux qui n'ont pas toujours la défense de leur cause, comment leur assurer la protection juridique. Et c'est ce qu'on a appelé la déclaration de Marrakech sur le statut des minorités non musulmanes en terre d'islam. D'abord, il repose sur les textes coraniques, qui sont des textes qui appellent la communauté humaine à se rassembler, à se souder, à s'accepter mutuellement, mais aussi sur le fameux pacte de Médine. Médine, c'est cette ville où le prophète avait émigré de la Mecque à Médine. Il a donc constitué l'embryon d'un État musulman, mais pour ce faire, il avait besoin de l'assentiment de toutes les communautés juives et chrétiennes. Et donc, il a lancé ce fameux appel à la tolérance, à la coexistence, à la cohabitation, à la reconnaissance de la religion de l'autre. C'est un antécédent absolument important. Et puis, le troisième pilier, c'est la conception moderne des droits de l'homme et de la liberté de conscience. Donc, il y a un renvoi à tous les paramètres anciens et moderne pour pouvoir justifier ces déclarations qui, je le rappelle, est unique dans l'histoire et dans les annales du monde musulman. Ce n'est qu'un début, c'est vrai, vous l'avez rappelé, c'est un texte qui n'est pas très bien connu, mais je pense que ce texte est une première étape, un premier pas dont il faudrait consolider, et je suis persuadé qu'elle sera rappelée à l'occasion de la visite du pape au Maroc.
On parle au Maroc de la liberté de culte, mais pas encore de la liberté de conscience dans la Constitution.
Si, la liberté de conscience est un des principes fondamentaux, puisque le Maroc a adhéré à tous les pactes internationaux des droits de l'homme. Donc, dans ces pactes internationaux, il y a évidemment la liberté de conscience. Nous sommes une société mixte. Maintenant, nous avons aussi d'autres paramètres culturels qui arrivent. Les immigrations africaines, à dominante chrétienne. Nous avons également beaucoup de Français et de Belges qui arrivent pour s'installer au Maroc. Et cela va faire du Maroc, qu'on le veuille ou pas, c'est le destin, je dirais, du Maroc demain, une société multiculturelle, multireligieuse. Donc le Maroc se prépare à cela.
Sur la conversion, est-ce que le Maroc est plus en avant que d'autres pays? Sur la question de la conversion, puisqu'on parle d'interdiction d'un prosélytisme agressif, où est-ce qu'on met le curseur?
Là, d'abord, nous sommes au début d'un processus. Nous connaissons depuis quelques années des personnes, des hommes et des femmes qui choisissent, en leur âme et conscience, une autre religion. Il faut rappeler que le Maroc, d'une certaine façon, gère intelligemment, car l'apostasie, ce qu'on appelle l'apostasie, c'est le fait de changer de religion, est condamnable à mort. Le Maroc est en train de réfléchir sur ces questions pour justement ne pas tomber dans cet archaïsme, il faut le dire. Deuxièmement, ce qui n'est pas toléré, c'est ce qu'on appelle le prosélytisme agressif, c'est-à-dire ce qui incite les gens à pouvoir se braquer contre une autre religion en abordant ou en investissant une autre religion. Cela est une affaire d'ordre public, c'est-à-dire le droit est le seul garant de la légalité de tous. Je suis sûr que l'évolution de cette société multiculturelle imposera aux décideurs et à la gouvernance d'autres façons de gérer le problème. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune restriction, si ce n'est celle qui est imposée par la loi.
L'islamologie l'archéologue Abderrahim Afidi. Passons à un tout autre sujet avec Sodoma. La grande enquête sur l'homosexualité au Vatican, publiée simultanément le 21 février par 8 maisons d'édition et en France chez Robert Laffont, et qui a sonné comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà bien chargé pour l'Église. Son auteur, Frédéric Martel, est notre invité. Frédéric Martel, bonjour.
Bonjour.
Alors, depuis ce 21 février, vous avez enchaîné les interviews en France et à l'étranger. J'ai volontairement attendu l'accalmie médiatique pour vous recevoir et aussi pour lire en détail votre livre, parce qu'il fait quand même 630 pages. Alors, quelques mots pour nos auditeurs. Vous êtes journaliste à France Culture, où vous produisez l'édition Soft Power, et aussi vous êtes un fin connaisseur de l'univers gay auquel vous appartenez et auquel vous avez accordé déjà plusieurs livres. Alors, votre enquête de terrain a duré 4 ans en Italie et dans une trentaine de pays, ce qui lui confère son sérieux et son authenticité, pas moins de 1500 entretiens avec une quarantaine de cardinaux, une cinquantaine d'évêques, plus de 200 prêtres et séminaristes pour révéler au grand jour l'homosexualité au sein de la curie et le clergé, à commencer par les séminaires. Alors, avant de détailler cette enquête dans le détail, qu'est-ce qui vous a conduit à entreprendre ces recherches ? Vous n'êtes pas anticlérical, vous n'avez pas de compte à rendre avec l'Église. Est-ce que vous voulez sortir en quelque sorte l'Église d'une schizophrénie ?
Oui, évidemment oui. Je suis aussi pas vaticaniste, c'est-à-dire que c'est pas ma spécialité à l'origine, donc j'ai dû tout apprendre, même si j'étais catholique, comme d'ailleurs un peu tout le monde en France, à cette époque-là, jusqu'à 12 ans, donc c'est une histoire assez ancienne, terminée, donc pas de compte à rendre avec l'Église, pas de problème particulier, d'affection particulière, c'est un peu, au fond, ça n'existait plus pour moi, le catholicisme. Si je décide de faire ce livre, donc c'est une, vous l'avez rappelé, un livre d'investigation, c'est d'abord parce que j'ai des sources sérieuse, confirmée à Rome par des prêtres qui travaillent au Vatican et qui me racontent cette histoire. Et dans, d'une certaine manière, ils me racontent le livre. Et là, vous vous dites, il y a deux solutions. Ou bien ils sont fous, ou bien ils sont complètement, exotiques, ou alors ils ont raison. Et dans ce cas-là, il faut travailler parce que c'est l'un des plus grands secrets des 50 dernières années.
Secret, mensonge ?
Moi, je dirais d'abord secret, parce que, vous savez, moi, qu'un prêtre, un évêque ou un cardinal soit homosexuel ne me pose aucun problème. Je suis laïque, je suis à la fois gay, mais aussi gay-friendly, bien sûr, pas anti-catholique. Donc, il se trouve que c'est une situation très commune dans l'Église. Et donc, le débat, c'est, et la raison d'être du livre, c'est critiquer l'hypocrisie, la double vie, la schizophrénie. Mais le fait qu'il soit homosexuel ne me pose pas de problème. Donc, c'est un secret. C'est peut-être un mensonge, mais ça, c'est peut-être un peu leur problème. Disons qu'en termes légaux, ils sont homosexuels, ça ne me pose pas de problème.
Est-ce que l'on peut considérer, par ailleurs, que c'est un livre militant, pour en quelque sorte banaliser l'homosexualité, qui est encore dénoncée dans le catéchisme de l'Église catholique?
Bah, d'abord, c'est un livre, je pense, de journaliste. Je ne suis pas un journaliste gay, je suis un journaliste. Je suis un écrivain, je suis un sociologue, et j'ai prouvé, j'écris, vous l'avez rappelé, mais j'ai travaillé sur les industries culturelles, sur le numérique.
Ça, c'est votre émission, oui.
Un livre qui s'appelle Mainstream, sur la culture de masse et les industries culturelles, etc. Donc, je ne suis pas un journaliste gay. Il se trouve que, par ailleurs, je suis gay, j'assume ça, et c'est d'ailleurs aussi une manière d'être transparent, de dire les choses. Et objectivement, c'est aussi parce que je suis gay que j'ai pu pénétrer le réseau gay, j'ai pu rentrer au Vatican grâce à des prêtres nombreux, très nombreux, des évêques, des cardinaux qui m'ont accueilli aussi. Et c'est aussi pour ça, en fait, la première question qu'on devrait se poser, pourquoi ce livre n'existe pas
déjà,
alors que tout le monde savait. C'est ce qu'on appelle, en français, on dit un secret de Polichinelle. Tout le monde savait ça. Vous parlez aux vaticanistes à Paris, à Rome, aux prêtres, aux gens qui travaillent au Vatican, tout le monde le sait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Au fond, pour ceux dont on vient de parler. Premièrement, si vous êtes italien, vous avez peur, c'est compliqué. Et le fait que je sois français a été la clé. Si vous êtes vaticaniste, vous perdez votre job si vous écrivez ce livre. Et je ne suis pas vaticaniste. Si vous êtes hétérosexuel, hélas, sans doute, vous n'avez pas les codes, vous n'avez pas le réseau, vous n'avez pas les moyens de comprendre ce qui se passe vraiment. Donc voilà pourquoi peut-être il a fallu attendre tout ce temps, peut-être trop tard d'ailleurs, mais sans doute ce livre n'aurait pas été publiable il y a 20 ans ou il y a même 10 ans pour que Sodoma donc paraisse.
Sodoma, pourquoi vous avez choisi ce titre ? Ça aurait pu être un autre titre.
Ça aurait pu, d'ailleurs, pour vous dire la vérité, mon titre initial s'appelait The Closet, c'est-à-dire le placard, on dirait en français. Et c'est d'ailleurs le titre de l'édition anglaise et portugaise, In the Closet of the Vatican. Et puis, ce titre est intraduisible en italien. Il est très difficile en français. On peut pas appeler un livre en français The Closet, ni en italien. Et on peut pas le traduire. Si vous dites le placard, c'est pas beau comme
non,
titre.
Non plus, on comprend pas, non.
Et donc, finalement, Sodoma, très vite, qui était mon titre aussi, s'est imposé. Les Italiens le voulaient. Jean-Luc Barré, mon éditeur français, y tenait énormément. Et donc, c'est le titre de l'édition française, mais aussi espagnole. C'est le titre aux Pays-Bas. C'est le titre, sera le titre allemand,
oui,
slovène,
croate,
roumain, hongrois, turc, en Corée, au Japon, puisqu'on le traduit dans toutes ces langues.
Oui, c'est ça. Ça rappelle effectivement, bon, la Genèse avec...
Oui, d'ailleurs, pourquoi ce titre
Sodome
pardon,
et Gomorre. Oui,
pardon,
oui,
j'ai mal répondu à votre question.
Oui, oui.
Mais c'est la Genèse 19, donc la Bible,
oui,
qui a considéré, donc c'est la base même de l'homophobie de l'Église, c'est depuis toujours, depuis même l'Ancien Testament, donc c'est très ancien, on considère dans la Genèse que la ville de Sodome a été détruite parce que ses habitants étaient homosexuels et que Dieu détruit la ville pour punir au moment où le prophète Lot la quitte lui avec ses deux filles, sa femme se retourne, elle devient statue de sel et lui-même va engendrer d'ailleurs toute une grande population puisqu'il va avoir une sexualité avec ses deux filles. Comme quoi la Bible, on lui refuse l'homosexualité qui est considérée comme étant mauvaise, mais par contre le fait que
l'autre
couche avec et de l'inceste avec ses deux filles, ça on retient pas ça. Évidemment personne aujourd'hui n'accepterait l'inceste, donc ça veut dire déjà que cette histoire est assez fausse, elle est assez, je dirais, d'abord anachronique puisque ça peut pas être l'homosexualité d'une ville comme Sodome sur plusieurs siècles, elle n'existerait pas. On considère que c'est généralement les spécialistes un problème d'accueil. Il y avait pas assez, on accueillait pas assez les étrangers, c'est pour ça que Dieu aurait été mécontent. En réalité, la ville, sans doute, a été détruite, mais probablement pas par Dieu, hélas, mais peut-être par un tremblement de terre ou par d'autres phénomènes volcaniques ou atmosphériques.
Alors, Frédéric Martel, l'homosexualité dans la curie, l'homosexualité à Rome, dans les séminaires, clé de lecture pour comprendre. Pour comprendre le discours de l'Église sur la sexualité, pour comprendre actuellement la fronde contre François, pour comprendre la démission de Benoît XVI et pour comprendre, alors beaucoup plus grave, la culture du secret face aux abus sexuels. Donc il y a ce mécanisme que vous avez démonté.
Oui, en fait, alors vous allez dire, je suis un peu obsédé par cette question. Et
c'est votre grille de lecture à vous.
Oui, puis mon livre est sur l'homosexualité de l'Église. Donc forcément, je tisse les liens, j'essaie de décoder les codes, de comprendre le fonctionnement, les secrets. J'ajoute...
Ça se tient, hein.
Et je précise tout de suite que quand je parle d'homosexualité, il s'agit d'une majorité. Il ne s'agit pas d'un lobby, il ne s'agit pas d'un petit groupe. Il s'agit d'une majorité.
D'une culture.
Majorité silencieuse, avec une culture, mais aussi avec énormément de diversité, de singularité. Vous avez ce qu'on appelle les homophiles, c'est-à-dire des homosexuels non pratiquants qui n'ont pas de sexualité. Vous avez des homosexuels réprimés, refoulés. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de rigidité. Il y a de l'homosexualité de substitution, faute de femme. Il y a de l'homosexualité d'initiation, notamment dans les séminaires. Et puis, il y a de la prostitution, ce qu'on appelle les chemsex parties, c'est-à-dire des soirées qui mêlent du sexe et de la drogue homosexuelle, notamment, et il y a une soirée qui a eu lieu comme ça à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le célèbre bâtiment de l'Inquisition, vous vous rendez compte? Là, il y avait des soirées, des chemsex parties, et ce ne sont pas des rumeurs. Il se trouve que, moi je le savais, mais ça a été confirmé, la gendarmerie a arrêté les prêtres coupables, si tant est que la justice confirme qu'il soit coupable d'ailleurs, et il y aurait même des cardinaux qui participaient à ces soirées. Donc voilà la réalité de ce qui se passe au Vatican, mais encore une fois, une réalité avec une immense diversité.
Et cela, c'était sous Jean-Paul II.
Alors moi, je ne suis pas historien, vous l'avez rappelé, je suis journaliste, sociologue, donc je m'intéresse essentiellement aux gens que j'ai pu, c'est une enquête
aujourd'hui,
avec des interviews. Donc évidemment, je ne remonte pas, je commence avec Paul VI, et donc je ne connais pas ce qui se passait à la Renaissance, où je n'ai pas travaillé sur ça. Effectivement, je pense que les choses se sont déglinguées, pour prendre un mot un peu vulgaire comme ça, sous Jean-Paul II, qui a été vraiment un pontificat trop long. Je pense que le pape, honnêtement, le pape Jean-Paul II n'était pas au courant. Il était obsédé par d'autres questions, notamment sa lutte contre le communisme, son succès planétaire. Et puis après, il a été très vite malade, très vite sans doute pas capable de comprendre. Mais dans son entourage, il y avait effectivement beaucoup d'homosexuels pratiquants parmi les cardinaux, les assistants. Et tout ça a eu beaucoup d'effets que vous avez rappelés. Des effets sur la doctrine, des effets sur le sida, par exemple. On a interdit le préservatif, alors que ceux qui interdisent le préservatif, pour beaucoup d'entre eux, sont homosexuels pratiquants. Donc il y a une schizophrénie abyssale. Et évidemment, je ne veux pas en rendre l'Église seule responsable. Mais le sida, c'est 37 millions de morts. Si on avait eu une autre position sur le préservatif, il y aurait peut-être eu moins de victimes. De même que François a pris, dès qu'il est arrivé, le pape François a pris la décision de dire qu'au fond, le plus important, c'était de soigner les gens et que, tant pis, si j'utilisais le préservatif, on était prêt à accepter ça. Ce qui prouve que Jean-Paul II aurait pu prendre une autre position. Il ne l'a pas fait. Voilà ce que j'essaie de comprendre.
Comment vous avez procédé? Parce que le Vatican, c'est la culture du secret. Manifestement, les cardinaux vous ont beaucoup parlé. Pourquoi vous ont-ils parlé? C'est quand même une vraie question. Comment expliquer cette parole qui s'est libérée? Même vous dites d'ailleurs que certains cardinaux sont de vraies pipelettes.
Oui, je ne peux pas faire une réponse unique parce que chaque situation est particulière. Il y a d'abord des sources primaires, je dirais. Il y a 27 prêtres, gays ou laïcs d'ailleurs, à l'intérieur du Vatican, qui travaillent et vivent tous les jours, qui, eux, savaient ce que je faisais, m'ont aidé pour ça. Ensuite, il y a des conseillers du pape qui savaient ce que je faisais, ont pu m'encourager sous certaines formes, mais ils ne m'ont pas vraiment aidé. Ensuite, il y a des cardinaux, et là, chaque histoire est particulière. Vous savez, moi, j'ai vécu à Rome, vous l'avez rappelé, chaque mois, une semaine, pendant 4 ans. Donc, ça veut dire que j'ai créé des relations sur le long terme. Quelqu'un, la première fois, il est très distant, il est très prudent, il sait qui je suis, je n'ai jamais menti sur mon nom, sur le fait que j'étais journaliste, écrivain, sociologue. Mais au bout de la 10e fois que vous voyez, après, vous partez en vacances, ou vous dînez, ou vous habitez chez eux, je me suis mis à habiter à l'intérieur du Vatican, avec un cardinal, un évêque, des prêtres. Du coup, ça crée d'autres types de rapports. Mais le point principal, c'est que au fond, les prêtres gays parlent d'eux-mêmes, les cardinaux gays parlent des autres.
Ça, c'est la grosse différence.
Oui, jamais ils ne parlent d'eux. Ils vous font comprendre des choses, il peut y avoir une forme de séduction, mais ils jouent très très rarement, enfin ils jouent quasiment jamais pratiquement carte sur table, parce que un cardinal qui serait outé, ce serait la fin de sa carrière. Outé, ça veut dire si je révélais son homosexualité. Je rappelle d'ailleurs que je ne révèle pas l'homosexualité des prêtres ou des cardinaux, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de partir toujours des situations particulières, individuelles, pour remonter au système.
Alors un système effectivement dont vous donnez quelques équations, c'est-à-dire que plus le discours, si on a bien compris, plus le discours est homophobe, plus la personne en fait est de tendance homosexuelle ou en tout cas homophile, pratiquante ou non, etc.
Absolument, c'est une des règles clés.
La règle clé.
Alors, comme toute règle, il y a des exceptions, bien sûr, mais je pense que, si vous voulez, moi, citons par exemple le cardinal Casper ou le cardinal Omella, je parle avec eux, on parle d'homosexualité, ils sont tranquilles, ils ont des arguments, on est pacifique, vous savez, ils n'ont pas de problème avec ce sujet, ils en parlent comme tout le monde. Vous pouvez vous dire très vite qu'ils sont probablement hétérosexuels, parce que c'est pas une obsession. Quand vous avez un cardinal qui en parle tous les jours, qui est obsédé, qui dit que c'est l'enfer, le démon, qu'on va brûler, qu'on sent le roussi. Vous vous dites, il y a quand même, vous savez, la fameuse phrase d'Hamlet que j'utilise beaucoup dans mon livre, la dame proteste un peu trop pour être honnête, me semble-t-il. C'est acte 3, scène 2 d'Hamlet, je le cite parce que c'est important. Quand vous êtes comme ça, obsessionnel, avec une homophobie aussi violente, dans beaucoup de cas, ça révèle en fait une homosexualité ou une homophilie cachée.
Et là, vous pensez au cardinal américain Burke?
Alors moi, je connais rien de la vie privée de Raymond Burke. Je pense que là, on est sur un cas encore plus extrême. Raymond Burke, c'est le plus homophobe des cardinaux de la Curie romaine. C'est un cardinal américain qui n'a pas toujours été d'ailleurs hyperactif pour lutter contre les abus sexuels, parenthèse, opposant numéro 1 de François, qui le déglingue partout, et qui par ailleurs s'habille en drag queen. Donc là, c'est même pas la question de savoir s'il est hétérosexuel, homosexuel ou pas. C'est une drag queen. Physiquement, il est déguisé. Alors les gens d'ailleurs m'ont un peu reproché, certains ont dit votre livre est caricatural. Non mais, c'est lui la caricature. Moi, je ne fais que caricaturer.
Les photos, effectivement,
je caricature une caricature. J'invite tous les auditeurs à taper Raymond Burke Kappa Magna, ça fait avec deux P. Vous voyez ses habits, ses robes longues. Vous vous dites, le type... Et en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, cette église est trop féminisée. Alors vous dites, là, il y a vraiment un problème, quoi.
Oui,
et encore une fois, je sais pas, je connais pas sa vie privée, mais d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Mon sujet, c'est l'hypocrisie, la schizophrénie, la double vie, mais aussi, tout simplement, le mensonge. Il ment, il nous ment sur la féminité, il nous ment sur cette homophobie obsessionnelle chez lui.
Alors, revenons sur les cas d'abus sexuels. Pour vous, effectivement, une des explications de cette culture du secret qui plombe complètement l'Église aujourd'hui, bon, on le voit, notamment avec l'affaire du cardinal Barbarin. Une des explications, c'est que un évêque homosexuel pratiquant, finalement, ne va rien dire parce qu'il craint que s'il dénonce un prédateur sexuel, ce qui est tout à fait autre chose, eh bien, on va peut-être savoir ce qu'il vit et la façon dont il vit.
Oui, alors, pardon d'être un tout petit peu long, mais sur ça, il faut être très précis.
Très clair,
c'est un sujet, évidemment, très, je dirais, touchy en anglais, très chaud. D'abord, il n'y a pas de lien entre homosexualité et abus sexuel. Toutes les études le montrent. D'abord, ce sont essentiellement des hétérosexuels qui abusent généralement de filles ou de femmes massivement dans les familles hétérosexuelles, dans les écoles, la structure scolaire, sportive, etc. Et essentiellement, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'hétérosexuels dans le monde que d'homosexuels. Premier point. Alors après, si on regarde l'Église, ce qui se passe dans l'Église, effectivement, on observe que la très grande majorité des abus, les victimes sont des garçons mineurs ou des hommes majeurs. À 80-85% selon les études, disons, de la conférence des évêques américains ou de l'étude de Spotlight. Donc il y a, je dirais, dans l'Église, les abus sexuels sont des abus homosexuels. Alors la question, c'est pourquoi ? J'ai pas la réponse, c'est évidemment des phénomènes très complexes, mais il y a d'abord des formes d'homosexualité très mal vécues, sublimées, refoulées, frustrées, réprimées, qui peuvent dans certains cas, heureusement fort peu nombreux malgré tout, on parle d'un ou 2% des prêtres concernés, qui vont se traduire par des abus. Ensuite, il y a, et c'est le point principal à mes yeux, une culture du secret, une culture au fond où on a menti sur la sexualité des prêtres, on a menti sur leur double vie, y compris d'ailleurs lorsqu'ils sont hétérosexuels, et dans cette culture-là, un certain nombre de pédophiles, d'abuseurs sexuels ont pu fonctionner sans être dénoncés parce que couverts par cette culture du secret qui en réalité n'était pas faite pour les protéger eux. Mais ils en ont bénéficié, si je puis dire.
Général.
L'institution, malgré elle, les a protégés. Je ne pense pas qu'elle voulait les protéger, mais elle les a protégés. Et le problème, c'est que les deux choses sont très imbriquées, très difficiles aujourd'hui à démêler. Enfin, évidemment, il y a ce qu'on pourrait appeler une grande confusion, non seulement dans les textes, mais aussi dans les têtes des prêtres. On leur dit depuis des décennies que vous êtes homosexuel, c'est horrible, vous allez en enfer. Et puis après, au fond, la sexualité hors mariage, c'est horrible, vous allez aller en enfer. Et puis tromper sa femme, c'est horrible, vous allez aller en enfer. Puis après, abuser d'un garçon ou d'un jeune enfant, c'est également horrible. Tout ça est horrible et tout est mélangé. L'Église n'a jamais distingué, au fond, des relations entre majeurs consentants, d'une part, qui sont légales, fort heureusement, dans un certain nombre de pays, et puis des actes avec des mineurs ou d'ailleurs avec des adultes, dans des conditions d'autorité, dans un cadre non consenti ou d'abus. Et cette distinction n'a pas été faite. Je pense qu'on est là au cœur du problème également, qui fait que les prêtres sont perdus. Ça ne les excuse pas, mais c'est des actes individuels, c'est aussi une culture collective qui est également responsable.
Vous voulez dire que Frédéric Martel, qu'il n'y a pas une hiérarchie en quelque sorte qui a été établie ?
Bah oui, c'est quand même dramatique. On aurait dû au moins faire une distinction entre homosexualité d'une part et abus sexuel de l'autre. Ça n'a jamais été fait. Mais même avec la sexualité hors mariage, on dit vous couchez avec une fille hors mariage, c'est un crime absolu. Alors même que les abus sexuels le sont aussi, mais pas plus pratiquement dans le discours de l'Église. Et là, il y a vraiment le pape Jean-Paul II, le pape Paul VI qui a été à l'origine de ces décisions. Et bien sûr, le cardinal Ratzinger devenu pape Benoît XVI ont une immense responsabilité dans toutes ces affaires. À cause de cette confusion des textes et du coup dans la tête des prêtres.
À ce propos d'ailleurs de confusion, là je vais vous faire une remarque sur la date de la sortie de votre livre qui a coïncidé absolument, je crois, jour pour jour avec le sommet à Rome sur la protection des mineurs. Et ça, aux yeux du grand public, ça c'est une remarque que je vous fais, aux yeux du grand public, ça pouvait effectivement créer une forme de confusion.
Alors d'abord, c'est une date que je ne maîtrisais pas parce que ce livre devait paraître, non mais surtout le livre devait paraître en septembre, il a été retardé de près de 6 mois à cause des traductions qui sont arrivées très nombreuses et donc ça nous a fait perdre 5-6 mois. Mais après, en réalité, je suis triste de dire ça, étant moi-même homosexuel et défendant les droits des gays, c'est que la clé des abus sexuels, ou en tout cas l'une des clés importantes, elle se trouve aussi dans ce livre. C'est une des réponses au problème.
C'est-à-dire
la culture du secret, la culture de cette schizophrénie par rapport à une vie privée non assumée, ce mensonge sur la sexualité des prêtres, et évidemment le secret de l'homosexualité très massif. Et tout ça, je dirais, contribue à ces affaires, et c'est pourquoi la question devait être débattue dans ce cadre aussi, et d'ailleurs elle l'a pour une petite part été.
L'Église, finalement, par son système, crée selon vous ou non de l'homosexualité ?
Alors évidemment, je ne peux pas répondre pour tous les cas. Chaque vie est singulière, chaque parcours. Puis la sexualité est quelque chose d'intime, de complexe, avec sans doute plein de nuances, etc.
Bien sûr.
Moi, je crois profondément qu'on ne naît pas homosexuel et c'est pas l'Église qui rend homosexuel, fort heureusement. Il y a peut-être un peu d'homosexualité de substitution, comme on la connaît dans les prisons, par exemple, ou dans des univers masculins très fermés. Mais je crois que fondamentalement, c'est très simple. Vous êtes homosexuel, ou en tout cas, vous comprenez qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas attiré par les femmes, vous n'avez pas envie de vous marier, on se moque un peu de votre voix efféminée, de vos habits, vous êtes un peu la risée à l'université, etc. Vous êtes dans une famille bourgeoise, c'est la honte. Vous êtes dans une famille pauvre, votre vie va être un désastre. Si on est dans les années 50, vous devenez prêtre. Ça a été la matrice sociologique de dizaines de milliers, de centaines de milliers, peut-être, de prêtres qui ont eu ce parcours-là. Donc, au fond, l'Église attire, recrute et promeut des homosexuels à cause de ça, à cause du célibat, à cause de la chasteté. Ça les attire. Les gays pensent, et encore une fois, je les comprends, je les défends, je suis de tout cœur avec eux, je comprends cette affaire. Les prêtres comprennent le vœu du célibat comme un vœu de célibat hétérosexuel. Et donc, au fond, l'homosexualité, qui de toute façon, rappelons-le, dans les années 50, était de toute de toute façon interdite partout, dans la société, dans l'Église, etc. Donc au fond, c'est un refuge. L'Église fut très longtemps un très important refuge pour les homosexuels. Elle l'est encore aujourd'hui en Afrique, par exemple, très souvent. Et donc, là-dedans, au fond, vous comprenez les codes. Il faut être homophobe à l'extérieur. À l'intérieur, vous êtes dans votre bocal, vous êtes un poisson rouge, vous naviguez, vous trouvez votre espace. Vous êtes chaste, vous ne l'êtes pas. Au fond, le système a beaucoup de souplesse à l'intérieur. Et on a d'ailleurs une des causes explicatives de la fin du sacerdoce. Aujourd'hui, les hétérosexuels ne veulent plus du célibat, ils quittent l'Église massivement, ils ne veulent plus y rentrer parce qu'ils veulent une sexualité. Et les homosexuels qui eux-mêmes comprenaient les codes et acceptaient d'aller dans l'Église, aujourd'hui, du fait de la libération homosexuelle, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Espagne, moins en Afrique ou dans certains pays d'Asie, mais malgré tout, c'est un mouvement mondial, eh bien aujourd'hui, ils ont d'autres options que de rentrer dans l'Église. Tout le fait, notamment, qu'il n'y a plus assez de prêtres. Vous savez, 800 prêtres meurent en moyenne chaque année en France. Vous avez moins de 60, une cinquantaine qui sont ordonnés. L'Église disparaît, est en train de disparaître dans nos pays. C'est d'ailleurs pour ça qu'on invite un certain nombre de prêtres d'Afrique ou d'Asie à rejoindre l'épiscopat français, où on retrouve le même mécanisme. Homophobie à l'extérieur, ils rentrent dans l'Église pour se protéger, ils viennent en Europe parce que c'est une manière d'être plus sain, d'être plus safe lorsqu'on est homosexuel. Ce n'est pas la seule clé, je ne veux pas non plus
exagérer.
C'est une
des clés pour vous, c'est
ça. Mais
oui.
À mes yeux, clairement, une des clés de la fin du sacerdoce et du nombre de prêtres.
Vous avez rencontré 200, je crois, c'est cela, hein, 200 prêtres et séminaristes, non seulement à Rome, mais aussi à Naples et dans d'autres endroits. Et manifestement, vous évoquez leur misère sexuelle. Et là, je pense à ce chapitre du livre que vous consacrez à la guerre terminée, et à ces rencontres tarifées que des jeunes prêtres peuvent avoir avec notamment des migrants.
Vous savez, c'est très compliqué d'enquêter sur ce sujet. Donc vous devez travailler avec toutes les sources possibles. Vous interviewez les prêtres gays, les prêtres non gays, en tout cas ceux qui ne sont pas ouvertement, les évêques, les cardinaux, vous êtes dans la structure. Vous voyez les médecins de la ville de Rome qui permettent de comprendre quelque chose sur la densité très importante de malades du sida ou de séropositifs au sein des prêtres et des séminaristes.
Chose supérieure,
très frappante.
Supérieure.
Très supérieure, 4 fois supérieure à la moyenne. Donc il y a un vrai problème de sida dans l'Église, en plus rejeté. Évidemment, les gens ne veulent pas se faire tester. Lorsqu'ils sont malades, ils sont en difficulté, etc. Et puis, j'ai travaillé sur la prostitution et tout ça, non seulement à Rome, non seulement dans un certain nombre de villes italiennes, mais aussi dans 30 pays, en Colombie, en Uruguay, au Mexique, en Argentine, etc. La guerre terminée, c'est intéressant parce que là, je vais de l'autre côté. Je rencontre des migrants qui sont des migrants souvent musulmans et qui vont, faute de pouvoir gagner leur vie, souvent ils sont hétérosexuels, ils sont algériens, marocains. Ils vont se prostituer, c'est un réseau très dense, très important, et ils vont notamment avoir une sexualité avec des prêtres, ce qui est très confirmé, prouvé, non seulement par la police, que j'ai également interviewé, mais aussi par des prostituées qui se trouvent avoir gardé la liste des prêtres, des photos, etc. Et donc, voilà, c'est effectivement deux misères sexuelles qui s'accouplent, la misère du prêtre qui ne peut pas vivre son homosexualité, et celle du musulman qui, au fond, n'a pas d'argent, est un migrant abandonné, qui ne peut pas vivre, et qui est obligé d'avoir cette sexualité payante, et en même temps il n'a pas de sexualité avec les filles non plus. Donc c'est de la substitution d'une certaine manière, et c'est à la fois tragique, et en même temps je voulais raconter cette histoire parce que je la trouve très belle malgré
elle
tout dans son horreur,
oui.
Parce que c'est des gens qui s'aiment parfois. Enfin, les prostituées racontent comment les prêtres tombent amoureux d'eux, comment ils les embrassent tout le temps. Parfois même ils veulent pas de sexe, ils veulent juste les embrasser. Vous voyez l'état de ces prêtres. Donc c'est très touchant, c'est confirmé par plus de 60 prostituées que j'ai interviewées avec des associations. Bien sûr, j'ai pas fait ça tout ça. Vous savez, j'ai 80 assistants, collaborateurs, traducteurs,
oui,
pour
ça,
faire ce livre.
J'imagine.
J'ai des associations de travailleurs sociaux, de spécialisés dans la prostitution, la lutte contre le sida, qui m'ont aidé. Et voilà, moi j'ai été, j'allais presque dire traumatisé, le mot est peut-être trop fort, mais j'ai été très marqué,
bouleversé
par ces histoires. Et en plus, des gens que j'ai perdu. Un jour, le téléphone s'arrête, vous ne pouvez plus les retrouver, et ils cessent de vous raconter leurs histoires qu'ils ont commencé à vous raconter parfois sur plusieurs mois.
Oui, ce garçon qui raconte à sa mère qu'il travaille, je ne sais plus, dans le bâtiment, dans une pizzeria.
Bien sûr, ils mentent à leur mère, alors qu'ils sont prostitués à Rome,
en Tunisie,
parce qu'ils ont trop honte de dire, évidemment, ils ne raconteront jamais à leurs parents ce qu'ils font. Et évidemment, quand vous avez le discours du pape François, que par ailleurs je respecte, c'est un livre assez favorable au pape François, qui vient parler des migrants et qui veut les accueillir, vous avez cette espèce d'image qui m'obsède, à savoir, ils sont accueillis mais par les prêtres, mais comment ?
Frédéric Martel, comment ressortez-vous de cette enquête, de ce livre, avec quand même, c'est comme un coup de poing, hein, mondial. Comment ressortez-vous ? Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous dites, voilà, j'ai fait le job, il y avait, personne ne pouvait le faire finalement, personne ne l'a fait jusqu'ici, j'ai fait le job, c'est-à-dire pousser l'Église, inciter l'Église à sortir de cette schizophrénie ?
C'est difficile de répondre à cette question. Je dirais surtout que moi, en effet, mon objectif, j'ai pas un agenda politique, contrairement à ce que l'extrême droite peut croire. J'ai d'abord une volonté de faire un bon livre, de raconter une histoire que j'ai vécue, hein, puisque c'est beaucoup ce qu'on appelle du journalisme d'immersion, hein, on rentre dans des institutions sur de la très longue durée. Mais j'ai aussi, évidemment, mon prisme et aussi mes idées. Je défends, par exemple, les droits des gays. En même temps, mon souci, ce n'est pas de réformer l'Église, parce que je ne suis pas catholique. Au fond, j'espère que des gens vont s'approprier ce livre, et c'est à eux, s'ils le souhaitent, aux prêtres, aux croyants, aux catholiques, que par ailleurs je soutiens quand même dans une... J'ai un souci de vérité qui rejoint le souci de vérité du pape François, qui vont pouvoir s'emparer de ce travail pour peut-être arriver à changer l'Église.
La fin d'un livre, c'est toujours intéressant. Dans les dernières pages, Frédéric Martel, vous parlez de Louis. Louis, un prêtre qui vous a marqué, dont vous ne soupçonniez pas qu'il fût homosexuel. Et voilà, les dernières pages lui sont en quelque sorte consacrées.
Oui, c'est très rare que je parle de moi dans mes livres. C'est mon 10e livre, je crois, 11e livre. Et là, il y avait cet effet. Au fond, j'ai découvert tout ça pendant que j'écrivais ce livre. Et il m'a semblé que c'était aussi une manière d'être en empathie avec mes personnages, bien que ce soit des personnages réels et on n'est jamais dans la fiction dans ce livre. Et ce qui me frappe, c'est que, au fond, personne ne peut dire que ce livre est contre l'Église quand on lit ces 5 pages. Et j'ai voulu je pense que c'est vrai dans tout le livre, parce que je suis malgré tout en empathie avec des personnages qui sont homosexuels, qui sont menteurs, qui sont schizophrènes, mais je comprends en même temps leurs difficultés et la tragédie qui... Et au fond, ils sont eux-mêmes piégés dans leur petit placard, leur closette, qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer, et ils en sont les victimes. C'est ça la réalité, en tout cas pour ce qui est de l'homosexualité. Et parler d'un prêtre que j'ai bien connu, et qui était lui-même homosexuel, mort du sida, alors même que l'Église l'a abandonné sous Jean-Paul II, je trouve que c'est donner aussi une figure positive dans un livre qui peut être aussi par certains aspects assez douloureux pour lire pour un catholique.
Je vous remercie Frédéric Martel. Je rappelle donc Sodoma, votre livre Enquête au cœur du Vatican, et c'est publié chez Robert Laffont. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Olivier Raoul vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.